Les enjeux internationaux.
Avec vous Thierry Garcin, bonjour.
Bonjour Guillaume Erner et alors bonjour Gérard Chalian.
Bonjour.
Alors la Russie, 2 ans après l'annexion en gros de la Crimée ukrainienne par Moscou, alors il faudrait évidemment revoir toute la politique étrangère russe, ce n'est pas évidemment le moment, puis on n'en aurait tout simplement pas le temps, il faudrait d'ailleurs parler de la Syrie, on y reviendra. On va se limiter ce matin à l'Ukraine, on connaît les principaux attendus de la question, notamment l'annexion manu militari de la Crimée en 2014, il y a donc 2 ans. Alors celle-ci, d'ailleurs cette annexion a souvent été perçue, vous allez dire ce que vous en pensez, comme une sorte de riposte à l'intervention militaire occidentale de l'Alliance Atlantique, sans l'accord de l'ONU d'ailleurs, au Kosovo en 1999, parce que la province avait été détachée de force de la Serbie. Et puis, essayer de voir un petit peu comment on peut interpréter la diplomatie russe dans cette région essentielle, puisqu'on l'a souvent dit, l'Ukraine est un pays bicéphale, c'est un pays entre l'Europe centrale et on va dire l'Europe russe, c'est une sorte de marche géopolitique.
Oui. La première chose, pour l'observateur non idéologique, c'est de remarquer que, après la guerre froide, alors qu'on a eu une politique de, disons, de containment, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire
d'endiguement.
On endigue l'URSS, ce qu'on a observé, c'est qu'on a eu, en fin de compte, une politique de refoulement de l'ex-URSS aux frontières de la Russie. Ça, c'est la première chose. Et cette politique a été menée de façon active et non proclamée par les États-Unis. La seconde, c'est que la partie s'est jouée en Géorgie, d'une part, et puis en Ukraine, surtout dans la mesure où l'Ukraine était le gros morceau, très important pour les Russes, dans la mesure où, pour des raisons historiques, ils se rattachent à cette idée que bon, la culture russe démarre là. Et puis pour les Occidentaux, et tout particulièrement pour les États-Unis, détachés, comme l'avait dit Zbigniew Brzezinski, qui est certainement le théoricien américain le plus intéressé à cela, détacher l'Ukraine, c'est rendre la Russie puissance régionale au lieu d'être une puissance à vocation mondiale. Donc ça s'est coagulé sur l'Ukraine et la révolution orange, 2004-2005, vous vous souvenez, la révolution orange, c'était quoi? C'était, en fin de compte, déjà le travail qui était fait par des ONG, qui étaient en fin de compte toutes gouvernementales. Les organisations non gouvernementales américaines sont des organisations gouvernementales qui étaient là pour suggérer à l'Ukraine que finalement passer du côté occidental, c'était passer du côté de la prospérité. Ce qui peut sembler vrai, mais qui n'est pas non plus une évidence dans la mesure où aujourd'hui les Ukrainiens se rendent bien compte que les prendre dans l'Europe, il n'en est pas question pour l'instant, compte tenu de leur degré de corruption profond, etc. Donc en 2005, Monsieur Poutine gagne en définitive. Il gagne, il met un régime qui lui est favorable, et ce régime va au contraire être liquidé. En février, il y a 2 ans, au moment où il y a eu 80 morts, dont on ne sait pas très bien d'ailleurs qui les a provoqués. Et on se retrouve avec, pour M. Poutine, une perte effective. C'est-à-dire que pour un tacticien comme il est, l'Ukraine était perdue. Bon, qu'est-ce qu'il fait comme réponse? Eh bien, il annexe manu militari, sans victime, soit dit par parenthèse, la Crimée qui avait été donnée en 1954 par l'Ukrainien Khrouchtchev à l'Ukraine, à une époque où l'Union soviétique paraissait devoir durer toujours.
Oui, c'était un jeu d'écriture à l'intérieur du système. Voilà. Ça ne prêtait pas à conséquence.
Non. Non, ça paraissait normal.
Alors il y a quand même une chose intéressante, c'est que il y a eu, on l'a dit ici même souvent, il y a eu quand même des responsabilités de la part d'un certain nombre d'Occidentaux, notamment des membres de l'Union européenne comme certains pays baltes, surtout la Pologne. On a dit qu'ils avaient quand même poussé les Ukrainiens à défier la Russie, ce qui n'était pas très évidemment lors de ces grandes manifestations, etc. Et de ne, par exemple, de ne surtout pas, c'était la décision extraordinaire d'ailleurs du pouvoir à un moment donné, ils sont venus sur leur décision de supprimer la langue russe quand même.
Oui, ça c'était...
Une faute de débutant.
C'était plus qu'une faute. Il faut bien dire que la connaissance que nous avons, nous, en Europe occidentale, de l'histoire de l'Ukraine est à peu près nulle. Nous ne savons pas que l'Ukraine a été longtemps, en tout cas une grande partie d'entre elles, sa partie occidentale en tout cas, soit polonaise, soit lituanienne, ce qui explique d'ailleurs qu'en 2005, quand il y a eu la Révolution Orange, il y avait là M. Lech Walesa et le Premier ministre de la Lituanie qui étaient présents. Et nous ne savons pas non plus de façon claire que la partie ouest est uniate, c'est-à-dire catholique, rattachée à Rome. Que la partie orientale, celle qui justement est irrédentiste aujourd'hui, est une partie tout à fait russe et rattachée au patriarcat de Moscou. Et puis la partie centrale, elle est orthodoxe et elle est rattachée à Kiev, c'est-à-dire elle est proprement ukrainienne. Bon, tout cela nous a complètement échappé. C'est pas les médias qui l'ont expliqué, en tout cas pas les médias de masse. Ce qui fait que pour nous, bon, c'était un match entre le dictateur Poutine et puis la démocratique américaine. Bon, les choses sont plus compliquées que ça, sans compter que nous savons très bien que les États, quels qu'ils soient, défendent d'abord leurs intérêts.
Est-ce que vous avez tendance à inclure ça dans une vision géopolitique de la part de Moscou à l'époque, c'est-à-dire reconquérir en tout cas, être réassuré sur Sébastopol, sur le port, et évidemment c'est le grand port de la flotte russe en mer Noire, ça permet d'aller via les détroits turcs en Méditerranée, et puis est-ce qu'il faut inclure les facilités aussi maritimes que les Russes ont en Syrie, Tartous, Latakia, est-ce que ça fait partie d'une certaine façon d'une vision plus géopolitique?
Tout à fait. En tout cas, Sébastopol et l'accès à la mer Noire, c'était quelque chose de vital. N'importe quel dirigeant digne de ce nom aurait fait pareil. Hein. C'est-à-dire, vous perdez l'Ukraine, vous récupérez la Crimée. C'est une évidence. Je veux dire, n'importe quel chef d'État digne de ce nom aurait fait la même chose. Non, ce qui est intéressant, c'est de dire que M. Poutine a perdu. Il a perdu parce que plus jamais l'Ukraine ne fera partie de l'Union économique euro-asiatique. Qu'est-ce qu'il vient de perdre? Il vient de perdre le contrôle direct de 45 millions de Slaves russophones, ce qui est une perte pour lui considérable sur le plan de l'influence, dans la mesure où les Russes sont 115 millions. Les Russes sont 115 millions et ils sont entourés à l'heure actuelle, disons, de 80 millions d'États dans leurs proches étrangers, comme ils le disent, de 80 millions de musulmans. C'est-à-dire qu'on a, en fin de compte, dans l'ère où M. Poutine estime qu'il est au centre, 80 millions de musulmans et 115 millions de Russes. Voilà pour la perspective, particulièrement dans une zone où la démographie se trouve du côté des musulmans.
Il faudra revenir d'ailleurs sur cette équation régionale et ce gradient de civilisation. Merci beaucoup, Gérard Chalian. On peut d'ailleurs citer la sortie, la réactualisation de votre ouvrage sous votre direction, celle d'Arnaud Blin, Histoire du terrorisme de l'Antiquité à Daesh chez Fayard, franceculture.fr pour écouter l'émission et pour la télécharger.